J'ai décidé de courir 4 courses de 250 km en autonomie dans 4 des endroits les plus extrêmes sur Terre. La jungle, le désert, la banquise et l'altitude. Pour m'aider à accomplir cet objectif, je reçois dans ces hors-séries des athlètes, entraîneurs ou physiologistes susceptibles de me conseiller. Aujourd'hui, je discute avec Véronique Liévin, une hyperactive passionnée par la vie, toujours en quête de nouveaux défis. Rien d'étonnant donc à ce qu'après avoir couru l'UTMB ou la Diagonale des Fous, elle se soit embarquée dans 3 des courses de Beyond Ultimate. Dans cet épisode, elle partage avec moi son mindset, son entraînement, la préparation de son sac, les ressources mentales qu'elle utilise, mais aussi quelques mises en garde utiles et anecdotes amusantes. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Véronique.
Bonjour.
Dis-moi, est-ce que tu as une petite routine matinale qui te permet d'être en pleine forme et d'appréhender ce podcast avec sous les meilleures énergies possibles?
Non, j'ai pas vraiment de routine. C'est plus une routine mentale finalement, parce que dès que j'ouvre les yeux le matin, je pense déjà à tout ce que je vais faire dans la journée. Et du coup, c'est juste, je mentalise toutes les choses que j'ai à faire. Hein. Je me fais ma petite checklist et j'essaie à chaque fois d'apporter le point positif de chaque chose que je vais faire dans la journée. Donc c'est comme ça que je l'ai abordé ce matin en ouvrant les yeux.
Ouais, du coup, tu fais un petit peu de visualisation. Ça t'aide à mettre plus de conscience peut-être dans les différentes actions que tu dois mener.
C'est ça. Et comme je suis un peu tendance à avoir beaucoup, beaucoup de choses, je remplis beaucoup mon agenda. Et après, c'est mon leitmotiv de me lever le matin, c'est que j'aime faire beaucoup de choses dans des domaines très différents. Donc je visualise tous les matins en me levant tout ce que j'ai à faire, comment je vais enchaîner, comment je vais optimiser toutes mes tâches.
J'ai un petit peu le même problème que toi, tu vois. Je pense que certaines personnes manquent d'énergie et cherchent comment en trouver, et puis d'autres en ont trop et cherchent comment la canaliser.
C'est ça, exactement.
Et tu vois, pendant longtemps, j'ai essayé de combattre ma personnalité et ma volonté naturelle d'avoir beaucoup de stimulations différentes, et puis jusqu'à comprendre qu'en réalité, c'était ma façon d'être et de fonctionner.
Exactement.
De l'accepter, et puis simplement d'essayer de mettre une sorte de canevas pour organiser tout ça et que ça s'enchaîne bien sans que ce soit complètement le chaos, quoi.
C'est ça. Donc, c'est mettre des petites cases, faire les choses l'une dans l'autre et essayer d'optimiser tout ça. Et faire comprendre aux autres que c'est notre mode de fonctionnement et qu'ils ont beau dire ralentis, arrête, tu peux pas tout faire. Mais le problème, c'est qu'on est comme ça et que si on l'enlève, mais.
Et puis après, tu vois, je trouve aussi que quelque part, ralenti, fais pas tout ça, etc. Je trouve que plus t'en fais, plus t'es capable d'en faire aussi. Tu vois, c'est un peu comme si on fait un parallèle avec l'endurance et la course à pied. La première fois que tu cours, je sais pas, 1 kilomètre ou 2 kilomètres, t'es là, tu craches tes poumons, tu dis « Ah, oh, c'est dur », etc. Puis après, en fait, t'en cours 10 et c'est juste hyper facile parce que ton corps, il a mené plein d'adaptations physiologiques.
C'est ça, c'est l'adaptation.
Et la biogénèse mitochondriale, etc. Tu vas mieux récupérer, gérer mieux l'effort, t'as ton cœur qui va s'adapter, enfin bref. Et donc, t'es capable d'en faire de plus en plus, et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil dans tout, tu vois, même dans tes journées, à force de faire beaucoup de choses, t'es capable d'en faire plus, d'en absorber plus, tout en étant bien, tu vois, sans que ce soit du surmenage ou la porte ouverte vers le burn-out.
C'est ça. Après, je pense que tout le monde a sa propre limite, sûrement. En tout cas, tant qu'on l'a pas touché, on se dit qu'on est capable de continuer dans cette dynamique, donc... mais je suis d'accord que grâce à l'adaptation, le corps et l'esprit est capable d'aller assez loin.
Et justement, tu vois, en parlant d'adaptation, donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation. L'idée, c'est de faire une petite hors-série de podcasts liés aux courses Beyond Ultimate, qui sont des ultra-trails de 250 km dans 4 des endroits les plus extrêmes au monde. Donc il y a le cercle arctique, la jungle, le désert et puis la haute altitude. T'en as couru 3 en fait.
Il y en a un petit peu à part, mais oui.
Mais bon, qui est dans le même principe. Donc j'avais envie que tu m'expliques un petit peu comment tu t'étais entraîné, comment tu as préparé ton sac, comment tu as géré ta nutrition, ce que tu as ressenti pendant ton aventure, peut-être la partie introspective, etc. Donc on va aborder tous ces sujets-là, mais avant de rentrer vraiment dans le cœur de ce sujet, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement chercher les extrêmes et repousser tes limites physiques et mentales?
C'est comme toute forme d'addiction, hein. On commence par des choses assez ordinaires, assez facile d'accès, etc. Donc j'ai commencé avec du trail, puis j'ai commencé à augmenter les distances en trail. J'ai fait la diagonale du fou, l'UTMB, donc bon, le GRP, donc des courses voilà, qui d'ultra. Et puis ben, je pense que ma satisfaction personnelle n'était pas assouvie, donc il fallait toujours que j'aille chercher plus loin. Et puis je pense que à un moment donné de ma vie, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est plus pour me prouver personnellement, hein, plus que pour les autres. Et puis j'ai découvert cette sensation de vraiment de dépassement, d'aller chercher des retranchements physiques et mentaux, et le fait de dépasser ces obstacles, hein, et d'avoir ces sensations, ben je pense que ça m'a plu, hein, c'était de l'adrénaline. Donc et puis le contact, d'aller chercher loin, même géographiquement, ben ça me permet, je pense que c'est une forme d'introspection. Parce que comme on disait au tout départ, j'ai beaucoup de choses dans la vie quotidienne, j'enchaîne, je fais beaucoup pour les autres aussi, dans le cadre de mon travail et dans le cadre associatif, etc. Et je crois que c'est une vraie thérapie aussi d'aller chercher ses limites, hein, dans ce type de course, parce que c'est des courses à étapes sur 5 jours. Et finalement, j'ai fait un petit article où je disais que c'est vraiment en fait une course en solo. Même si c'est avec d'autres coureurs, même s'il y a de la solidarité, il y a de l'organisation, il y a les bénévoles, les locaux, etc. Ben finalement, quand tu es face à toi-même dans un contexte assez difficile, tu es seul, et c'est une façon d'introspection, une façon d'une thérapie, de se couper du monde et d'aller chercher des sensations extrêmes.
Qu'est-ce que tu as appris sur toi, et est-ce que ça a changé un petit peu ta perception du monde ?
Alors ça a changé ma perception du monde, ma perception des autres et ma façon d'être. Je pense que ça m'a transformée aussi en termes de personnalité. Je pense que maintenant je pars du principe que rien n'est impossible, donc que ça soit des petites choses de la vie quotidienne comme des grandes choses sportivement, et puis cette quête d'explorer le monde, de se dire que ben Il y a d'autres choses que notre petit train-train, notre petit quotidien. Donc, j'appréhende plus du tout ma vie comme je pouvais l'être il y a 10 ou 15 ans. Quoi.
Ouais, du coup, ça fait péter un peu des croyances limitantes en mode « je sais que je suis capable de faire ça, donc en fait, je suis capable de grandes choses, donc ça, c'est transférable dans toute ma vie. » Et en fait, c'est une forme de croyance ressource qui te permet de capitaliser et de faire un petit peu n'importe quoi. Et puis, par ailleurs, j'imagine aussi que le fait de te confronter à l'inconfort, à la difficulté, à la douleur, ça te donne aussi un référentiel, et par biais de contraste, ça rend peut-être tous les petits problèmes du quotidien plus faciles à gérer.
Et après, je me sers de cette force pour moi, mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de le communiquer, d'essayer de le communiquer aux autres. Donc, il y a tout cet aspect aussi de partage d'expérience et de partage de vision de vie, et de montrer aux autres, mais attendez, si moi j'en suis capable, vous pouvez. Donc, allez-y, quoi. Ne vous limitez pas, arrêtez de vous mettre des œillères, des bornes, des contraintes. Allez-y, quoi. La vie est pleine de ressources. Donc c'est en ça que ça a pas mal changé aussi avec la relation avec les autres.
Et tu disais que ça, c'était vraiment un changement par rapport à la femme que tu étais il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, tu faisais déjà beaucoup de sport ou pas spécialement ? J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
J'en ai toujours fait. Mais du coup pas forcément, là j'avoue que ma vie tourne autour de ça. Donc en fait c'est je planifie, j'organise ma vie en fonction aussi de mes entraînements, de mon sport, sans quand même me mettre, voilà, j'ai quand même une petite fille, une famille, deux métiers, mais quand même c'est au cœur de mon organisation, et de plus en plus.
Ouais, donc du coup, tu es capable d'être à la fois de travailler, d'être mère de famille, de gérer ses entraînements. Ça représente combien de volume hebdomadaire d'entraînement ?
Franchement, je compte pas. Je compte pas parce que je me ferais peur. Parce qu'en fait, comment te dire, tous les jours, pour moi, c'est, je pars pas en mission commando, mais tous les jours, je fais un trail. C'est comme si je partais à une étape du BTU, c'est-à-dire que je pars le matin avec mon sac à dos et je mets toutes mes vies dedans. Je pars en vélo, donc du coup, ça me permet de travailler mon endurance. Donc, en fait, chaque moment de ma journée est un moyen de me préparer à ça. Donc, je pars le matin avec mon sac à dos, j'y mets mon ordi portable pour mon boulot, mes affaires de bureau, on va dire, pour ma partie chef de projet, mes baskets pour aller courir entre midi et deux, mon autre tenue de sport le soir si je donne des cours, ma gamelle, mes électrolytes pour me préparer aux boissons isotoniques, etc. Donc tous les jours, le matin, c'est comme on revient à ce que j'ai dit, tout le matin, la petite routine de savoir tout ce que je vais faire. Donc en même temps, ça me permet de mentaliser, de visualiser tout ce que je vais faire et comment je vais l'organiser. Et à côté de ça, les questions logistiques et pratiques. Donc du coup, je vais faire ça, donc il me faut ça. Dans mon sac à dos, je vais mettre ça. Et je reviens le soir et j'aurai fait, et je recommence le lendemain.
C'est intéressant, je trouve, de voir le quotidien justement comme une aventure et de voir le sport comme quelque chose d'intriqué à tes tâches habituelles plutôt que opposé et à cloisonner dans une petite case de ton agenda. Moi, j'ai aussi cette vision un peu d'intrication, tu vois. Le matin, j'aime bien faire un peu de mobilité. Là, pendant la journée, regarde, je travaille. Là, on fait le podcast. Je suis sur un bureau debout. Derrière, j'ai une barre de traction. Si j'ai envie de faire une petite pause, ou me suspendre ou des choses comme ça, je vais le faire. Le midi, avant de manger, j'aime bien faire un peu de kettlebell. Et puis après, je vais manger. Je vais recommencer à travailler. Puis en fin de journée, je vais aller courir probablement et puis après je vais aller faire une promenade avec ma fille, avec mon chien, enfin, et donc tu vois, c'est toujours une espèce, on parlait tout à l'heure d'équilibre, mais c'est toujours une espèce de danse comme ça entre les différentes entre mes différentes intelligences, tu vois, l'intelligence analytique, créative, interpersonnelle avec les autres, physique, etc. et plutôt que d'essayer tu vois, avant, j'avais une vision qui était quand même beaucoup plus cloisonnée, en mode, j'ai mon travail d'un côté, j'ai le sport d'un autre côté, j'ai la détente d'un autre côté, et maintenant, j'essaie plutôt d'avoir une harmonie entre tout ça.
C'est de l'intégration.
Ouais. Et donc, du coup, tu disais que tu courais entre midi et deux, tu cours tous les jours ?
Non, j'essaie en plus, j'essaie de varier parce que, je pense que tu es un peu pareil, mais quand on aime bouger, on aime un peu aussi faire des choses différentes. Donc, tous les jours, je fais quelque chose de différent. Alors, courir, finalement, je cours quoi, 3 fois par semaine, on va dire. 2 fois par semaine, ça va être plutôt soit du vélo d'intérieur, soit ça va être une séance de crossfit. J'essaie de faire de temps en temps la natation. C'est pas mon cœur de... Mais des fois, je suis obligée parce que je suis maître nageur aussi à côté, donc je suis obligée un peu de recycler la natte. Mais après, ça va être du VTT, ça va être... Donc tous les jours, je fais des choses différentes. Pour pas m'ennuyer aussi, parce que, quand on est dans ce mode de vie, on a tendance aussi à s'ennuyer si on fait toujours la même chose. On a horreur de la routine.
je suis d'accord avec toi. Moi aussi, tu vois, j'aime bien alterner. Et puis, de manière générale, j'adore l'aventure, j'adore les trucs outdoor, donc du ski, des raquettes, du vélo, de la course à pied, du trail, de la natation. Moi, j'adore tout ça. Et puis, d'un autre côté, j'aime aussi l'idée de me dire que je suis fort, tu vois, et que je suis pas que endurant. Et donc, je vois que tu fais du crossfit. Toi, il y a une vraie dimension de renforcement musculaire, de travail, de tout ça, de tes qualités d'haltérophilie, gymnastique, etc.
Oui, mais parce que j'aime aussi sortir de ma zone de confort, j'aime me mettre en difficulté finalement, donc aller faire du crossfit quand je suis pas gymnaste ni haltérophile, donc c'est aussi un moyen de se challenger sur d'autres choses que de rester dans sa zone de confort avec la course où on sait, on a tel VMA, tel pourcentage, on sait, ça c'est réglé. D'aller explorer la natation. Moi, je suis pas très nageuse, mais je me suis mis le challenge il y a 3 ans, me dire, j'ai passé le diplôme de maître nageur. Pourquoi? Juste pour essayer, et je l'ai fait. Maintenant, il faut du coup recycler, mais tu vois, donc c'est vraiment d'aller chercher des choses, sortir de la zone de confort, et puis je suis persuadée que c'est complémentaire et que le but, c'est toujours que le corps s'adapte. Donc, si tu le fais s'adapter à de la force, à de la gym, c'est des compétences que tu retrouveras même dans l'ultra-trail, quoi. Parce que tu auras appris à ton corps à s'adapter quoi qu'il arrive.
C'est marrant ça que t'aies passé ton diplôme de maître nageuse justement parce que tu détestais ça. Ça me fait penser à Nicolas Aignon, un invité du podcast qui m'inspire beaucoup et qui voit ses peurs, comme le fléchage vers l'étape d'après. Donc dès qu'il a peur de quelque chose, il dit ok, c'est vers ça que je dois aller, quoi.
C'est ça.
T'as l'air de partager un petit peu ce mindset. C'est et donc ça, du coup,
oui, parce que comme tout à l'heure, la première chose que tu m'as parlé en interne, c'était traverser la Manche en nageant. Justement, ça m'a traversé l'esprit parce que justement, c'est vraiment le truc dont je redoute. Ça et la plongée sous glace. Ouais, je sais que c'est les deux trucs où. Mais je me suis dit, un jour, je le ferai.
t'as déjà fait de la plongée en apnée ou pas?
Non. Alors j'ai fait de l'apnée parce que forcément pour le BPJEPS, pour le tour de ménageur, on est obligé de faire de l'apnée et faire passer la plongée. Mais non, j'ai pas fait vraiment de plongée sous apnée, mais je pense que c'est comme c'est le truc que je redoute, mais j'irai.
Et puis tu sais, peut-être que pour des, je sais pas, hein, là je m'avance, hein, mais pour des tempéraments comme nous, un petit peu feu, un petit peu trop, pas trop, trop, c'est pas le mot, mais un peu exubérant, je pense que l'apnée, à l'inverse, nécessite un calme. Un retour à soi, etc., qui peut-être est une qualité qu'on a intérêt à développer, mais qui est pas forcément notre mode par défaut. Tu fais des trucs genre méditation, etc.
J'essaie. J'essaie. Alors déjà en tant que coach, je suis déjà amenée à donner des cours, tu vois, type yoga, pilates. Donc déjà c'est prendre sur moi parce que j'en vois tout à fait l'utilité. Je suis consciente que c'est très bien. Je sais pédagogiquement les donner, mais déjà, ça me demande un effort surhumain de donner ses cours parce que, voilà, apprendre à se poser. La méditation, je pense que c'est quelque chose très important. D'ailleurs, j'ai commencé quand même cette année avec une étudiante en prépa mentale. Et je pense qu'on va travailler cette piste-là, justement, pour la préparation des futures courses, parce que je pense que c'est quelque chose, une des clés aussi qui peut m'apporter beaucoup, qui me manque.
Ouais, après tu vois la méditation, moi je suis très discipliné, alors j'ai facile à me mettre en place de nouvelles routines, et donc j'ai testé pendant plusieurs mois en faisant tous les jours, et puis certes ça a eu des bienfaits, mais en réalité je pense que il y a peut-être des choses qui sont bonnes à certaines étapes de la vie et pas forcément à d'autres, et donc la méditation c'est sûrement génial, mais je pense que là je suis pas dans une phase où j'ai envie de méditer. Tu vois, après
il faut
après,
pas le faire sous contrainte et se forcer, ouais, non plus, parce que voilà. Je pense que on réagit tous différents, il n'y a pas de vérité. Donc ouais, je suis assez d'accord.
Et après, tu vois, par contre, j'ai des alternatives qui ne sont pas vraiment de la méditation, mais qui peuvent avoir des avantages similaires, tels que, déjà, j'habite à Évian, au bord du lac Léman, et j'aime bien aller me baigner dans le lac, et puis après, apprendre 2-3 minutes de contemplation des montagnes, etc. J'aime bien pratiquer la gratitude le matin aussi, de penser justement au sourire de ma fille, au bonheur que j'ai de l'avoir dans ma vie, à ma femme, à toutes les choses qui me font plaisir dans mon quotidien. Et donc à prendre le temps vraiment de célébrer ces petites victoires. J'ai un petit sauna dans mon salon aussi, et ça c'est un moment de détente physique et intellectuelle qui est
j'avais ça avant
extrêmement appréciable
dans la maison de temps, c'est mon rituel du dimanche soir, moi, le sauna.
Et puis le fait d'en avoir un à la maison, du coup, ça facilite vraiment le fait de pouvoir le faire. Et donc, pour moi, c'est un vrai moment de détente, de lâcher prise. Et puis là, je reprends la respiration Wim Hof. En fait, quand j'ai commencé Limitless, au tout début, je m'étais beaucoup intéressé à ça parce que j'avais lu un livre de Scott Carney qui s'appelle « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».
Oui.
Et j'avais commencé à pratiquer, j'avais beaucoup aimé. Puis après, j'ai exploré plein d'autres choses. Et là, j'ai eu envie d'y revenir. Et donc, tous les matins, je me fais un peu cette respiration. Et j'aime bien cette alternance entre la partie très, très intense, très feu de l'hyperventilation. Et puis après, ces phases de rétention qui durent 3-4 minutes, poumons vides, et où j'ai l'impression de partir un peu dans les étoiles. Je trouve ça vraiment chouette. Et donc là, en prépa mentale, sur quoi tu bosses ?
Tout ce qui est systématiquement la visualisation de mes courses là, donc j'ai quelques trails, donc on essaie d'avoir des petits outils de visualisation, parce que j'ai identifié moi mes peurs et mes craintes, mes petits monstres comme Eddy, sur toutes les courses. Donc j'essaie de voilà, c'est je sais que
qui sont
points faibles, c'est le maintenant avec l'âge, c'est le manque de confiance en soi, parce que on sait que les performances, parce que je suis quand même dans un souci de performance sur les trails, on va dire. Et bon, on sait qu'avec l'âge, les performances diminuent. Donc, il faut accepter que certaines qualités physiques, comme la vitesse, on la perd un peu. Donc, c'est le manque de confiance, surtout en début de course. Voilà, je sais que j'ai un métabolisme, un entraînement, une expérience qui fait que moi, je suis plus en travail de résistance et de puissance. Donc, je vais plutôt me sentir bien sur les courses en deuxième partie. Mais que les 10 premiers kilomètres, pour moi, c'est vraiment un gros travail mental parce que je suis en difficulté et que c'est là que tout mon mental doit se forger. Donc, c'est évidemment, c'est beaucoup sur ça que je travaille. C'est des nouvelles craintes et des nouvelles peurs qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Et accepter la diminution des performances, de certaines performances. Parce qu'après, voilà, on sait que la maturité et l'âge font qu'on a d'autres qualités. Mais accepter certaines choses.
Donc, tu as des sessions dédiées où tu te détends, tu te concentres sur toi, sur ta respiration. Et puis après, tu visualises cette course. Tu essaies de modifier ton mindset, ton état mental dans ces parties-là pour avoir une forme d'ancrage.
Oui. Et là, avec la préparatrice mentale, on va essayer de mettre en place des outils pour juste avant les départs de course ou dans les moments difficiles de la course, de savoir comment lutter contre ces mauvaises pensées et justement avoir une espèce de... Alors, on est en train de voir les outils. Soit c'est des formes de pensées positives qui vont chasser les pensées négatives, soit peut-être des rituels ou de se recentrer. Moi, parce que moi en course, que ça soit surtout sur les ultras, j'ai besoin de sous-objectifs, j'ai besoin de mentaliser, j'ai besoin de. Je suis assez cartésienne, même de compter, de voilà. Donc c'est des rituels que j'ai beaucoup mis en place, notamment peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur le ice, ça m'a sauvé.
Parlons-en maintenant. Raconte-moi un petit peu cette course. Comment elle s'est passée, comment elle s'est déroulée, ce que t'as ressenti, ce qui se passait dans ta tête. Comment est-ce que t'as réussi justement à dépasser, parfois peut-être les moments de difficulté, d'envie d'abandon, etc.
Alors la ice, donc c'était la deuxième série que j'avais fait, puisque la première que j'avais fait c'était le Pérou, c'était l'Amazonie.
Tu nous raconteras après.
Ouais, je raconterai après. Mais là, sur la grosse particularité de l'ice, c'est que c'est vraiment, on est dans un milieu, un environnement complètement silencieux, blanc, sans repères. Pas beaucoup de repères visuels. D'autant plus que sur deux jours, il y avait une météo où on n'y voyait pas 2 mètres. Donc là, t'es confronté, t'entends ta propre respiration, t'entends tes propres pas dans la neige. Il fait excessivement froid, donc tu sais qu'il faut pas s'arrêter. Et il y a des longues traversées de lacs gelés. Donc les seuls repères visuels que tu as, c'est les poteaux rouges qui dépassent, qui te donnent le tracé. Et sauf que c'est des kilomètres et des kilomètres. Il y a une journée où c'est 21 kilomètres de plat, blanc, gelé, avec rien d'autre que de la neige et ces fameux repères visuels rouges. Donc là, heureusement que j'avais justement ces outils mentaux. Je me faisais des routines, je me récitais, soit je me visualisais en train de faire un cours de vélo. Enfin, je comptais, je me faisais des trucs très cadencés dans la tête. Et quand je sentais que la tête lâchait au niveau justement de ce rituel chronométré, j'utilisais la montre pour me fixer. Je me disais 100 mètres en marchant, 100 mètres en courant, 100 mètres en marchant. Donc tu vois, j'étais obligée de découper, de me faire des sous-objectifs, mais et plus ça allait, plus je les raccourcissais, quoi. Au début, je comptais jusqu'à 100 et changeais de position. Là, c'était on venait jusqu'à 10 par 10 pour toujours dépasser des steps, quoi.
Ouais,
du coup, cette grande sensation de longueur, d'infini, moi, l'infini, ça me fait peur, je pense. ça me fait lâcher mon mental. Moi, il me faut des bords.
Ouais, du coup, ça rythme, en fait, plus que le fait de reposer, etc., ça rythme ta course parce que ça lui donne une forme de changement de côté ludique, parce que tu t'alternes marche et course.
Mais je ne m'arrête jamais, par contre.
Ouais.
Mon bornage, c'était jamais de me dire dans 3 kilomètres, je m'arrête, je vais souffler. Non, par contre, je ne m'arrêtais pas.
Du coup, tu l'as couru sur 5 jours. Ça se passe comment une étape? Tu te lèves le matin, tu te prends un petit déj et puis tu pars courir et.
Alors, tout est question d'anticipation aussi. Je pense que la réussite d'une course comme ça, donc c'est quand même la répétition, c'est la résistance et c'est le fait, enfin, d'être quand même pas mal organisé, de savoir exactement où sont toutes tes choses, à quelle place, etc., pour pas te mettre en situation supplémentaire de stress. Parce que un vrai sujet, c'est quand même le stress de savoir si tu vas finir ta journée. Et surtout, après, c'est le matin quand tu te lèves, c'est aller à l'essentiel, c'est-à-dire manger. Ici, c'est se réchauffer, faire garder une température corporelle normale pour pas aller affronter déjà en hypo ta journée. Et c'est checker son matériel, être sûr que voilà, tu vas déjeuner, tu vas te poser, tu sais exactement où est ton matériel, il est en bon état et tu as juste à te préparer et à aller courir. Et dès que tu vas arriver, tu vas faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'abord c'est penser à te mettre au chaud, te ravitailler et juste checker ton matériel pour le lendemain et savoir exactement où sont tes choses. Au moins t'évites voilà le stress de la course qui est déjà énorme.
Comment t'as géré justement cette partie nutrition?
Je suis pas sûre d'être le meilleur exemple, mais du coup j'avais expérimenté. Alors, bon, je dis ça, mais bon, quand même j'y ai travaillé. Mais donc c'est que des lyophilisés en termes d'alimentation matin, enfin au moins deux par jour. Donc, ben, j'ai quand même fait une petite analyse de ce qu'il y avait sur le marché. J'ai une amie qui est diététicienne, donc on a quand même essayé de voir de voir la qualité et les quantités nutritionnelles de ce que j'avais besoin. Et après, je me suis servi aussi de l'expérience du Pérou pour ajuster les quantités parce que l'erreur que j'ai faite sur la première, c'est que j'avais pas pris assez à manger. Donc il faut vraiment se dire que il faut vraiment l'équilibre entre en prendre suffisamment pour parce que c'est ce qui va nous permettre de réussir, je pense, la course, et le souhait de vouloir s'alléger. Mais je pense qu'il faut privilégier le fait d'être un peu plus lourd en départ de course, quitte à s'alléger après, qu'essayer de faire le choix d'être super light et de risquer de pas être sous-alimenté. Et après, l'alimentation. Donc ça c'est les repas et puis après sur on a tout dans le sac à dos donc après j'ai fractionné sur les encas et pour l'ice la particularité c'est que j'ai testé dans le congélo quoi pour voir si ça congelait et que c'était mangeable.
Eh, c'est pas bête. Et donc ouais, tu parles des calories. Donc effectivement, quand tu vois ce que tu dois cramer entre le froid et puis le fait de faire 50 km par jour, plus ton métabolisme de base, etc. Et sachant que tu dois porter toute ta nourriture puisque c'est en autonomie, clairement, à mon avis, tu peux pas subvenir exactement à tes besoins caloriques. Donc t'es obligé de toute façon de faire une coupe là-dedans. Comment est-ce que t'as fait ce choix, ce distinguo entre suffisamment mais pas trop? À l'instinct.
Ouais, franchement. Bah après, je me suis quand même. J'ai posé des questions. J'ai le médecin du sport. Voilà. Moi, à chaque fois que je prépare ce genre de course, l'intérêt c'est que je vais chercher de l'expérience partout. Donc, j'ai contacté des comme toi, des coureurs qui l'ont fait. J'ai posé des questions. J'ai lu des bouquins. Parce que voilà, quand on est passionné, on a envie aussi. Moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans mon corps et j'ai envie que tout soit mesuré et compris et optimisé. Après, ça laisse. Enfin, la vérité, on ne sait pas quand même. C'est aussi ce qui rend l'aventure chouette, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir, heureusement, parce que sinon, c'est plus rigolo. Donc, il y a quand même voilà, au maximum avoir l'information pour me faire ma propre opinion de savoir ce que j'allais devoir manger et puis à l'instinct me dire, attends. Projette-toi, est-ce que là tu crois que puis je préfère en prendre un peu plus que pas assez. J'aime bien manger, je sais que moi c'est ce qui me tient. Je sais que ça fait partie du nerf de la guerre quoi. Au-delà de s'entraîner, on peut être prêt, super prêt physiquement, si derrière on n'a pas mangé et pas bu suffisamment, ben on peut passer à côté de la course juste pour ça donc.
Et justement, tu vois, en termes d'entraînement, t'as fait des entraînements spécifiques. Est-ce que tu t'es confronté au froid? Est-ce que t'as fait des petites courses par étapes pour voir un petit peu comment est-ce que tu te sentais après avoir enchaîné 3 ou 4 jours où tu faisais 50 km par jour? Est-ce que tu t'es entraîné avec un sac à dos un peu lourd pour simuler le poids que tu aurais apporté?
Alors, ça, bah, ça fait rire beaucoup de gens, mais j'ai un peu cette dualité où je mentalise beaucoup, j'intellectualise, je m'enseigne, j'essaie d'être voilà, c'est un peu mon ingénierie de projet là qui parle. Et puis à côté, je peux être complètement à l'arrache. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'à chaque fois que je m'inscris aux courses, je m'inscris un mois à l'avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'écris à Chris, le directeur, en disant il reste une place parce que finalement, je pense que je vais la faire. Donc ça a été super court. Je me suis adaptée. Donc, dans la vie de tous les jours, dès qu'il y avait un moment où je pouvais tester mon matos, je le faisais. Donc, je me suis retrouvée à courir au bord du canal du Midi à Toulouse avec les raquettes de neige dans le sac à dos. Les gens ont dû me prendre pour une folle, juste pour tester. N'ayant pas de grand froid à proximité, et c'était l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de neige dans les Pyrénées, donc j'ai fait une sortie raquette. Et après, pour m'habituer au froid, j'ai une copine qui travaille au marché Gare. Donc c'est l'équivalent du Rungis si tu vas à Toulouse, et j'ai fait des séances de vélo dans une chambre froide à côté de Chipolatas pour m'habituer au froid. Donc en fait c'est j'ai voulu tout tester parce que je pense que c'est très très important de tout tester, de se mettre en situation, montrer à son corps au moins une fois pour qu'il puisse s'adapter, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Mais pas forcément, faut être un peu créatif et ingénieux pour qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller se faire des stages. Moi, j'avais pas la possibilité dans mon emploi du temps d'aller partir 2-3 jours à la montagne, me faire des balades en raquette de 40 kilomètres. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait des expérimentations.
Et c'est marrant parce que tu sais, quand on regarde les préparations à une course, un objectif quel qu'il soit, souvent tu vois, on prévoit bien à l'avance, t'as une montée en charge progressive, etc. Toi à l'inverse, on a plutôt l'impression, donc comme tu le dis très bien, que c'est beaucoup plus intuitif, et donc t'essaies de faire en sorte que ton entraînement il te permette d'être prêt quel que soit le défi que la vie va mettre devant toi. Donc je reviens un petit peu à cette notion d'entraînement. Donc j'imagine que t'es peut-être moins sur des logiques de cycle, etc. Tu disais tout à l'heure que t'avais 3 séances de course à pied par semaine, 2 de vélo, une de crossfit et puis parfois une de natation. C'est à peu près ça ta base?
Oui.
Et est-ce que tu suis quand même un plan d'entraînement, un programme avec des séances de basse intensité, des séances plus intenses? Est-ce que tu détectes des points faibles et tu fais des cycles spécifiques pour travailler ces points faibles? Est-ce que tu as quand même une sorte d'ingénierie, de logique, d'intelligence dans l'entraînement, ou bien tu es full au feeling et puis en fait tu as juste envie de kiffer?
Un peu des deux. Après, mon avantage et mon gros inconvénient, c'est que j'ai beaucoup de charge mentale parce que finalement, je suis ma propre coach, parce que je suis dans la vie aussi coach sportif, donc je suis ma propre coach. Je suis ma propre, du coup, maintenant prépa mentale. Je fais ma com, je fais mes plaquettes pour essayer de trouver des sponsors, etc. Donc en fait, j'ai un peu toutes les casquettes. Et donc, c'est la même chose pour les entraînements. C'est que je donne aussi des cours aux autres. Donc, des fois, ça bouillonne un peu dans ma tête parce que j'ai toutes ces casquettes. Donc, je fleure le dédoublement de personnalité. Donc, entre le fait de je sais ce qu'il faut faire dans les séances. Donc, je me prépare mes séances. Par exemple, mes trois séances de course à pied, je sais que je fais un fractionné, un seuil tempo, une endurance longue. Mais après, je sais que je donne tel cours aussi qui est de l'endurance. Après, je sais qu'il faut que je fasse ça parce que c'est bon cycle PPG. Enfin, donc, des fois, je peux passer des semaines à être très cadrée, avoir un plan d'entraînement assez planifié, organisé, par cycle, par montée en charge, etc. Plus on se rapproche de l'objectif, plus on est près de la discipline. Bon, tout ça, je le sais. Et puis, il y a des fois où on pète un câble et on se dit, non, mais là, c'est plus possible, donc au feeling, quoi. Mais une des résolutions, c'est peut-être de me prendre un coach, même si en fait il va me dire ce que je sais déjà, mais ne serait-ce que voilà, pour décharger mentalement, je pense que c'est quand même pas mal aussi de s'appuyer sur les autres des fois.
Ouais, moi je trouve que c'est génial d'être coaché par rapport au fait de faire ses propres programmes. Déjà parce que tu décharges
C'est
cette charge
ça.
mentale, c'est clair. En plus de ça, t'as pas de doute à te demander est-ce que je serai prêt, est-ce que je serai pas prêt. Quelque part, tu fais confiance au gars qui t'accompagne, et donc c'est aussi hyper entre guillemets sécurisant à ce niveau-là. Et puis le dernier point, c'est que bon bah après, je pense que t'as une source de motivation intrinsèque qui t'aide à être, enfin qui te permet d'être suffisamment discipliné, motivé, etc. pour donner toujours le meilleur de toi. Mais pour certaines personnes, le fait d'avoir un regard extérieur, ça les pousse
Oui, non,
aussi
c'est
à
sûr.
avoir cette discipline, à montrer à leur coach, ah bah j'ai réussi à faire ça, ou tu voulais que je fasse ça, bah tiens j'ai réussi, etc. Tu vois, ça te donne un petit supplément de motivation.
C'est valorisant, ouais, tout à fait. Et donc c'est pour ça que bah, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de coach. Hein. Donc et là, c'est voilà. Je pense j'ai une année assez charnière où voilà, on met la prépa mentale en place, le coaching extérieur. Donc ouais.
Et tu consacres du temps à la mobilité, la prévention des blessures, la récupération? Tu fais des choses spécifiques là-dedans?
Oui, ben quand même malgré tout, malgré ce qu'on peut croire, c'est quand même pas mal le CrossFit qui m'a apporté cette notion de mobilité et de routine, etc. Parce que finalement, normalement, chaque séance de CrossFit commence par un peu de mobilité. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'a vraiment appris à le faire. Et maintenant, instinctivement, de plus en plus, je le fais naturellement à la maison, par exemple. Et après, j'accorde énormément d'importance à la récupération. Donc régulièrement, moi ce qui m'aide, c'est pas les massages par exemple. Déjà ça fait du bien physiquement, mais après ça me permet, c'est des moments où du coup je peux lâcher prise parce que je suis entre les mains de quelqu'un et que du coup ça libère aussi le corps et l'esprit. J'ai testé aussi, après voilà, je suis assez friande aussi de la cryo, enfin des massages, des automassages, etc. Donc tout ça, j'essaie aussi pas mal de tester, mais je sais de plus en plus que la récupération fait partie de l'entraînement.
Ouais, bah pour les massages, moi j'ai un pistolet de massage Terragun
J'ai ça aussi.
et je trouve ça agréable parce que justement, ça, surtout qu'après des séances de course, etc., t'as tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à me sentir un peu tout tendu, tu vois, à perdre en mobilité, en souplesse et le fait d'avoir cette petite pratique, déjà je trouve qu'elle est agréable, donc elle me fait du bien au mental et puis en plus de ça, elle me délie un petit peu le corps et donc je bouge mieux, donc je dors mieux aussi pendant la nuit et donc si je dors mieux, je récupère mieux. Donc il y a un côté un peu systémique qui est assez cool. Et alors du coup donc tu nous as raconté un peu l'Ice Ultra, ça donne quoi dans la jungle?
Ben, c'était ma première course à étapes. Là aussi, je sais pas ce qui m'a pris. Ben, si, je sais, mais c'était aux sorties. Alors, c'était quoi? C'était en 2022. Donc, c'était pas très loin du Covid. Et après le Covid, ben, du coup, il n'y avait pas eu beaucoup de courses. Ça a été compliqué, le Covid. Et c'est là que j'ai pas mal recherché et je suis tombée sur, mais à tout hasard, sur le l'Ultra Jungle. Et j'ai dit, en plus, j'avais, voilà, ça me parlait, la jungle, ça me parlait. Peut-être pour l'esprit animal ou du jungle, quoi. Du coup, je suis partie. Et heureusement, j'avais contacté un Français, Maël, qui l'a faite aussi, qui m'a quand même pas mal débriefé sur la course, parce que là, vraiment, c'était la découverte surtout ouais, l'équipement, comment ça se passait. Et donc, c'était la découverte, et franchement, ça s'est pas trop mal passé.
Et
Et
en
pas trop
faisant,
mal parce que ça a été quand même dire, mais d'autant plus qu'on est franchement une fille. Alors, c'est pas pour dire. Pas pour faire la comparer les hommes et les femmes, mais il y a quand même tout ce montage de hamac, on n'a pas l'habitude, les conditions sont hyper, enfin l'hygiène, etc. C'est hyper hyper primaire, quoi. Hein, faut pas se leurrer. Hein. C'est hyper humide. Mais moi j'ai kiffé parce que moi, plus c'est technique, plus c'est dur, plus on prend de la flotte dans la tête et plus j'aime ça, quoi. Mais après, ça a été dur. Première nuit, moi j'étais malade, donc déjà je suis partie premier jour complètement déshydratée. Le manque d'expérience fait que j'avais mal fait mon sac. Pourtant j'avais testé, hein, mais j'avais mal à agencer mon sac. Donc dès le premier jour, je me suis fait mal au dos. J'avais pas le bon t-shirt. Je me suis brûlée. Donc je suis partie. Le premier jour c'était la cata. Hein. Première nuit, donc j'étais malade, le hamac il tenait pas, j'ai pris la flotte, hein, j'étais malade toute la nuit, j'ai eu des brûlures dans le dos, des brûlures, bon, Donc j'ai dit non mais là comment je vais faire quoi? Donc là ben, c'est le mental hein, qui prend. J'ai fait ce qu'il fallait aussi. J'ai été obligée de prendre un médicament, etc. Et puis finalement, comme dans les courses, plus ça avance et plus je me sens bien. Donc en fait, je pense que mes qualités, c'est la résistance et la puissance. Donc et l'adaptation. Donc ben j'ai connu le premier jour les douleurs et le mental au plus bas des chaussettes. Et mon corps s'est adapté. Il a eu la réponse qu'il fallait et du coup ça a été de mieux en mieux et même le dernier jour j'étais dans les premières, je finissais première quoi. Donc juste pour montrer que du coup la progression, j'étais presque dernière le premier jour et j'étais très en forme le dernier jour. Donc je pense que c'est vraiment l'adaptation qui joue. Mais c'est là que j'ai appris le maximum de choses sur la prépa, sur le sac, sur l'alimentation et l'hydratation, parce que ben, la première journée, comme je te dis, j'étais complètement déshydratée. Donc c'est là que j'ai appris les mécanismes de prendre du sel, de prendre de l'eau, même si j'avais pas soif, de manger plus. Je pense que j'avais pas assez à manger. Heureusement, il y a des gens qui m'ont donné un peu plus à manger. Donc j'ai vraiment beaucoup appris sur cette course-là. Mais c'était super cool. Par contre, la seule anecdote, c'est que j'étais malade après. Parce que ce que je veux dire, mais qu'à la fin, c'est que après les deux courses, j'ai quand même eu deux choses assez impactantes au niveau médical. Mais je veux pas te
Ouais,
faire
bah
peur.
non, non, bah après, ça c'est déjà on le sait, ça, sans même être dans des environnements extrêmes, quand tu fais des ultras ou des choses comme ça, même l'UTMB ou la Diagonale des Fous qui sont déjà des courses d'ailleurs extrêmes, hein, il faut bien le dire, ton corps est immunodéprimé. Il y a vraiment une fenêtre d'immunodépression qui te rend beaucoup plus sensible
Ouais.
à n'importe quelle maladie.
Mais là,
Donc,
j'ai vraiment eu des. J'ai ramené des souvenirs, quoi. C'est-à-dire que ben, la jungle, j'ai attrapé la leptospirose là-bas. La leptospirose, c'est la maladie des rats. Donc,
OK.
vraisemblablement, j'ai été contaminée. Alors, sur l'eau, j'ai fait hyper gaffe, donc je pense pas que ça soit ça. Mais visiblement, j'étais griffée, enfin, j'avais des blessures aux jambes, j'étais en short. Et visiblement, j'étais contaminée en traversant des rivières, parce qu'on traverse pas mal de rivières. Et j'ai dû marcher à un endroit de l'eau contaminée, donc j'ai attrapé. Mais on s'en est rendu compte qu'une semaine après que je sois rentrée en France, quand même, ça c'était une chance pour moi parce que j'ai été prise en charge à l'hôpital de Toulouse. Mais ils ont mis 10 jours à savoir ce que j'avais, donc je suis restée 10 jours isolée dans une chambre en maladie infectieuse contagieuse à l'hôpital de Toulouse. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais j'ai eu très très peur parce que j'ai été très très malade quand même. J'ai tous mes organes qui ont été atteints, notamment le foie. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Et c'est grâce aux organisateurs de la course qu'on a pu identifier ce que j'avais, parce que j'étais sur le lit d'hôpital. Et donc j'avais quand même publié un petit sur les réseaux sociaux en disant ne vous inquiétez pas, je suis pas joignable, je suis malade. Et c'est quelqu'un de la course qui a dit, enfin un des organisateurs qui a dit mais peut-être que c'est la leptospirose. Il y a 3 ans, il y a un coureur qui a été aussi malade qui a attrapé ça. Et donc, je l'ai dit à l'équipe médicale qui ont cherché dans ce sens et qui s'avère que ça avait été ça. Donc voilà, faut juste quand même savoir que ces aventures-là ne sont pas sans danger, même si on prend toutes les précautions.
Ouais, d'autant
Et
plus
pour
que nous
l'aspect,
d'autant plus que nous occidentaux, on n'est pas du tout adaptés à ces environnements. Tu vois, je pense que les autochtones qui vivent sur place, ils ont déjà
Ah
une sorte
oui,
de
non, mais c'est
physiologie
sûr.
d'adaptation naturelle, des anticorps, etc., qui les rendent beaucoup plus adaptés.
Parfait. Et après pour continuer sur la petite histoire, donc à la ice, j'ai eu une gelure au doigt, c'est-à-dire que j'ai bien vu que sur le troisième jour il faisait moins 40 degrés, il y a eu beaucoup beaucoup d'abandon, il faisait vraiment très très froid. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais le fait d'enlever, j'avais quand même 3 couches de gants, mais je me servais quand même de la main droite pour attraper à boire. Pour les bâtons, etc. Et j'ai senti vraiment une grosse douleur dans la main. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai froid, mais faut pas s'arrêter, parce que de toute façon, on peut pas s'arrêter. On n'y voyait pas à 2 mètres, j'ai continué. Et dans la nuit, ça m'a énormément lancé. Et le lendemain, j'ai vu que mon doigt a changé de couleur. Il était tout blanc. Vraiment, ça faisait vanille fraise. Hein. Il était... Mais évidemment, j'ai rien dit. J'ai gardé pour moi. J'ai fait comme j'ai pu, donc je mobilisais, je passais la nuit à le bouger pour essayer de le faire circuler. Quatrième jour, ça commençait vraiment à me faire mal. Donc j'ai dit bon ben la veille du dernier jour, je suis quand même allée voir l'équipe médicale en disant bon, je crois que j'ai un problème à mon dos. Et là, ils se sont décomposés. Ils ont dit oui, ben effectivement, c'est une gelure, tu ne repartiras pas demain, tu ne repars pas. Je dis ah non, c'est pas possible. Tout ça en anglais évidemment que je ne maîtrise pas complètement. Donc mon argumentation était assez pourrie. J'ai dit ah mais non, mais il reste que en plus le dernier jour et c'est un peu moins de kilomètres. Hein. J'ai dit non, mais je vous ai dit ça pour pas garder ça pour moi, vous pouvez pas m'interdire de repartir quoi. Et l'équipe médicale a dit non, on va se réunir avec l'organisateur, on va prendre la décision, mais là tu peux pas partir. Et finalement l'organisateur qui savait aussi que du coup j'avais eu la leptospirose pour la jungle m'a dit non mais c'est pas possible, tu nous fais des trucs improbables. Et il a dit ben on veut bien te laisser partir le lendemain mais tu signes une décharge comme quoi tu risques l'amputation. Là j'ai dit oulala, j'ai dit bon ben je vais signer de toute façon. Enfin pour moi il était impossible de pas repartir quoi. Donc là je suis repartie, j'ai couru avec une main, j'avais pas le droit de laisser vraiment mitoufler etc. J'ai fini la course et dès le lendemain. Dès le lendemain, quand j'ai eu du réseau, j'ai appelé un médecin que je connaissais sur Toulouse et qui m'a dit bah, « Dès que tu arrives, on t'envoie en chirurgie. » Donc, dès que je suis arrivée en France, j'ai été prise en charge à la clinique par un chirurgien vasculaire qui m'a dit bah, « Là, il faut juste vérifier que ça n'écrose pas, mais effectivement, tu as une gelure. On ne sait pas comment on fait, donc on va appeler le CHU de Grenoble qui, eux, ont plus l'habitude des engelures et des gelures. » Donc, j'ai été prise en charge à distance par le CHU de Grenoble. Et donc, tous les jours, je suis allée voir le chirurgien en espérant qu'il ne me coupe pas le doigt, quoi. Et finalement, ça s'est revascularisé. Mais je garde des séquelles. C'est-à-dire que dès qu'il fait froid, etc., j'ai plus de sensation au doigt.
Ouais, sacrée aventure. Et ça t'a pas fait peur de partir sur des courses comme ça sans être hyper forte en anglais?
Enfin, pas hyper forte en anglais. Je comprends, mais bon, sur toutes les courses, j'étais la seule française, sauf le premier. Donc, je comprends, mais bon, ben non, finalement, ça fait plaisir de partie de l'aventure. Je savais que, mais voilà, ça m'aurait aidé de parler fluently pour expliquer et pour dire non, mais laissez-moi partir, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Et bon, et du coup, si on fait la dernière, donc Rangers, qui peut s'apparenter à une course dans le désert.
Oui. Là, c'est le top. Bon, là. Là, j'étais plus que prête. Du coup, c'était la troisième. Là, j'y suis allée avec beaucoup moins de stress, même s'il y a d'autres choses. Mais là, j'étais calée sur l'hydratation, sur l'alimentation, sur la logistique, sur comment le sac à dos. J'étais prête physiquement parce que du coup, je savais, mon corps connaissait ces contraintes-là. Donc, franchement, ça a été plutôt du kiff, ben, surtout que c'est assez magique, hein, parce que ben, là, tu cours avec les animaux, quoi. Donc, y a cet aspect extraordinaire et magique en plus, quoi. C'est-à-dire que tu cours et tu vois les girafes en haut de la colline, les rangers t'arrêtent, tu te dis « Attendez, il y a des éléphants qui vont passer !» Donc, tu t'arrêtes, tu vois les éléphants passer. La nuit, t'entends les rugissements. Bon, après, il y a quand même la crainte. Voilà, il y a quand même des dangers, et ce qui fait que c'est pas, tu cours pas en total sécure. Mais là, c'était exceptionnel. T'en prenais plus. C'est vraiment là, une expérience incroyable. Que tu peux pas reproduire nulle part ailleurs parce que l'environnement est juste unique. Mais après, ça reste quand même compliqué. Parce que ben c'est le Kenya, il fait froid les premières nuits, il fait froid la nuit contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'on est en altitude, très très chaud dans la vallée, c'est très sec, il y a pas d'ombre, hein. C'est très poussiéreux, donc il y a eu quand même pas mal d'abandon parce que c'est quand même très aride et très difficile à certains moments.
Et t'as envie de faire les deux dernières qui te manquent, celle en altitude et celle dans le désert?
Alors, c'est dans la liste. Comme je te dis, je fais toujours les trucs un peu à la roche. J'ai dans mon coin de tête la montagne. Je sais pas si tu l'as fait. C'est celle-là
non,
que
non,
tu
moi j'en
fais?
ai fait, moi j'en ai fait aucune.
Mais c'est pas celle-là que tu
Mais
veux faire?
là, je commence par l'échauffement, on va dire. En Écosse, je fais la Highland.
Ah, Highland, ouais, mais celle-là aussi. En fait, voilà. Bon, cette année, j'ai déjà, bon, je refais la Diagonale des Fous au mois d'octobre. Mais je veux absolument cette année me faire un challenge comme ça de limitless, comme si, comme Donc, je suis toujours en recherche de ce que je veux faire et j'ai quand même le Highland et le Mountain dans la tête. Après, c'est juste une question. Comme je te dis, moi, je suis prête. Donc, si c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien faire la Mountain quand même une fois. Tout dépend. Là, ça va être surtout des questions financières et logistiques. Mais principalement, mon principal problème maintenant, c'est surtout le transport. C'est l'avion et le temps passé dans les déplacements.
Bah non, mais c'est clair, c'est des endroits tellement tellement reculés, tellement peu accessibles, etc., que ça coûte cher et puis ça prend beaucoup de temps. Donc moi je vais faire la Highland là et je vais faire la déserte
C'est la
dans le
déserte. Et la déserte, je la laisse en dernier parce que c'est ce qui m'attire le moins. Alors voilà. Je pense que tu vas dire, mais justement, si tu veux sortir de la zone de confort, il faut aller là, dans des endroits, justement. Mais en fait, le seul truc qui me déplaît dans le désert, c'est que c'est plat. Et comme je te disais, moi, le plat, j'ai déjà donné avec le ice, tu vois. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le temps passe vite, mais le plat et le sable, j'ai peur de m'ennuyer, en fait.
je comprends.
Tu vois, moi, j'aime bien quand c'est technique, quand il y a des choses un peu plus extrêmes que le sable, mais bon.
Tu as parlé plusieurs fois de l'importance du sac et de l'équipement. Est-ce que tu as des conseils spécifiques à me donner sur ce sujet?
Oui, ben quand déjà bon, le choix du sac. Moi j'ai bon, je suis ambassadrice, mais c'est Red Light. Mais franchement, ils ont été testés, retestés. J'ai le même sac, j'ai fait les trois éditions avec le même sac. Donc, franchement, il est approuvé, plus qu'approuvé au niveau solidité. Et là, j'ai pas eu de soucis. Et après, c'est l'importance du rangement de ton sac, c'est-à-dire ne pas faire la même erreur que j'ai faite le premier jour du Pérou. J'avais trop les choses trop lourdes au fond du sac. Du coup, ben, ça tirait vers l'arrière et c'est là que ça m'a fait des brûlures. Donc, toujours mettre les choses les plus lourdes en haut, finalement. Bien protéger le contact de sac à dos et dos. Donc c'est pareil, c'est la façon dont tu ranges. Bah, attention, le lyophilisé. Moi, l'erreur, le petit coin, tu vois, le tout petit coin du lyophilisé qui a juste touché mon dos, mais au bout de 40 km, bah, ça m'a fait une brûlure énorme. Donc bien ranger ton sac, bien compartimenté pour te dire, il faut que tu saches toujours où est-ce que sont tes choses pour pas les chercher 10 000 fois. Aller le moins souvent possible, sortir ton sac, tout enlever, mettre les choses disponibles. Moi, c'est pour ça que j'ai
Le pack
l'espèce de
avant.
le sac avant, parce que là, du coup, devant, mais j'avais tout à proximité. Jamais j'allais chercher dans mon sac à boire, un médicament, un truc, machin, truc. Donc vraiment ça. Et puis faire des systèmes d'attache, essayer de te le customiser au maximum. Donc moi, tu vois, pour les raquettes, j'avais customisé en mettant des systèmes d'attache sur le côté avec des sangles, le truc le plus à l'aise pour toi. Et pour le Pérou, pareil, le hamac et le sac, on avait hamac et sac de couchage. J'avais fait un système de sangles que j'avais testé aussi. Donc vraiment, c'est hyper important de te l'approprier. C'était quoi l'autre question? Ah oui,
Non,
pour
c'était. Oui,
les vêtements. Mais les vêtements, pareil, donc pas de débardeur. Je pense que c'est la règle numéro un. Moi, je suis une fille, j'ai voulu mettre un débardeur le premier jour. J'ai compris ma souffrance avec le sac à dos. Manche longue pour protéger tes épaules. Surtout quand on transpire beaucoup et qu'il y a du sel, de la poussière, de la terre. Mais hyper hyper léger. Et après, moi, je suis partie hyper léger, hein. Ah oui, j'ai une autre anecdote, c'est qu'au Pérou, je suis partie avec un t-shirt et un short pour les 5 jours. Manque de bol, le troisième jour, je suis tombée sur une racine, un bambou, et j'ai déchiré mon short. Aux fesses. Donc j'avais les fesses à l'air. Donc pour finir la course, c'est un local qui m'a prêté son t-shirt, j'ai fait un nœud, mais j'avais prévu le fil et l'aiguille grâce à mon copain qui m'a dit prends un fil et une aiguille, on sait jamais. Donc j'ai pu recoudre mon short. Donc voilà, si tu prends qu'une paire de un short, une paire de chaussettes et un t-shirt, pense à des choses pour
MacGyver.
Toujours, ouais, toujours. Ah, moi j'avais plein de trucs, hein. Moi, j'avais MacGyver partout. Hein. J'avais des lacets, si jamais mon lacet... en fait, moi, c'était la principale peur, c'est que... Parce que t'as beau avoir un super équipement, si tu perds un truc ou si ça se déchire, si t'as un trou, donc toujours avoir une solution de repli sans trop te charger, du coup. Donc, MacGyver surtout. Hein.
Et donc, si on extrapole, bon, tu m'en as déjà donné beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils, recommandations ou points d'intention que t'aimerais me partager?
Se mettre des systèmes de... Parce qu'on est dans l'effort, on est dans la contrainte, on est dans le stress, on est dans l'organisation. Se prévoir des choses récompenses. Donc, moi, mes choses récompenses... Hein, c'était une petite brosse à dents et du dentifrice. Donc, c'est pas mal. Ça te fait un petit rituel le soir pour se brosser les dents, c'est pas mal. Surtout quand t'as mangé hyper sucré, etc. C'est cool. Je me faisais tous les soirs ma petite récompense. Moi, je suis très chocolat. Donc, le soir, je m'accordais mon petit paquet de M&M's. Je variais. Je me suis lâchée comme... on fait souvent attention, mais non, j'avais mes Kit Kat, bon, j'avais testé dans le congélo pour le ice, le Kit Kat, ça congèle pas. Donc, les systèmes de récompense sucrés, enfin voilà, suivant ce que tu aimes. Et après, ce que j'avais fait pour le Ranger aussi, j'avais pris découpé un livre et j'avais compartimenté, j'avais mis cinq feuilles de livre. J'avais compartimenté dans des espèces de sacs congélation, tu sais, avec une feuille de la journée. Et j'avais mis cinq feuilles d'un livre parce que, voilà, le soir, t'es quand même avec les gens, mais ça me permettait de... C'était ma récompense, mon plaisir de faire un peu de lecture. Voilà.
C'est marrant, une page par jour.
Exactement. Et du coup, une page. Je mettais deux, trois... Et du coup, après, bon, j'étais obligée, ça me faisait mal au cœur de jeter les pages d'un livre. Mais du coup, ça me permettait de me décharger quand même.
On arrive sur la fin du podcast. Si tu veux simplement, tu l'as évoqué hors antenne, tu me disais qu'il y avait des spécificités sur le sport féminin et notamment la pratique de l'endurance lorsqu'on est une femme et sur lesquelles tu avais envie d'apporter ton expérience. Et ben, c'est le moment.
Oui, ben, en fait, je suis ambassadrice de la Maison du Sport au Féminin sur Toulouse. C'est une nouvelle initiative qui a été faite par pas mal d'entrepreneurs pour les sportifs de haut niveau et les sportifs, on va dire, amatrices comme moi, mais qui ont le sport au centre de leur vie, pour plutôt militer l'égalité homme-femme dans la vie des sportives. Donc là, c'est un autre débat aussi politique, mais il y a aussi, sur le point de vue... scientifique et le fait que et sur l'hygiène de vie, c'est vrai que là sur les trois courses que j'ai faites, déjà on n'est pas beaucoup de femmes, donc on va dire qu'on est tout le temps en mixité, que ça soit dans les lieux de couchage, les lieux collectifs, donc ça apporte une contrainte supplémentaire parce que dans la façon de se préparer, de s'habiller, des questions pour aller aux toilettes, etc. Voilà, c'est plus compliqué quand même d'être une fille, même si moi j'ai pas trop de problèmes de pudeur, mais bon, voilà, ça reste quand même plus compliqué quand on veut se mettre une brassière, quand on veut se changer le short. Autant les mecs, voilà, vous avez plus de facilité quand vous êtes 40 mecs et qu'il y a que deux filles, c'est toujours plus compliqué. Par rapport au cycle aussi, parce que nous, on a toute cette gestion de notre cycle par rapport à la préparation de la course. Donc, on sait que déjà, quand on est en pleine période de cycle, les performances sont moindres et on est plus fatigué, on est plus en anémie, etc. Donc, on a ça à prendre en compte aussi dans notre préparation. Et puis pendant les courses, mais par rapport à la prise de la contraception, s'il y en a une, savoir comment éviter le cycle. Donc il y a toute une question aussi quand même médicale et hormonale qu'on doit prendre en compte. Donc bon voilà, faut c'est même pour les préparateurs physiques ou les organisateurs, c'est mais de plus en plus ils le prennent en compte dans les courses. Donc je trouve que c'est intéressant. Et puis il y a toute cette phase aussi d'endurance, comme tu dis, sur l'endurance, ben avec l'âge, etc. Ben hormonalement, il se passe des choses dans le corps d'une femme qui peuvent avoir un impact sur les capacités d'endurance et de résistance. Donc après tout ça, je trouve que c'est intéressant de le mettre en lumière, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps pour justement optimiser pour la suite.
Du coup, si parmi les auditeurs, on a des auditrices qui veulent aller réaliser des trails, des ultras, des courses par étapes, des aventures, etc., tu es aussi coach, accompagnatrice, et donc particulièrement à même de comprendre ces problèmes, ces spécificités, parce que c'est pas vraiment des problèmes, c'est plutôt des spécificités.
Oui. On a toujours, c'est pas des problèmes, parce qu'il y a toujours des solutions, donc oui, c'est des spécificités. Voilà, c'est juste des choses qu'il faut aussi anticiper au même titre que l'alimentation, l'hydratation, le sac à dos, le short, les chaussettes. Ben il y a aussi les petites les spécificités féminines.
Je mettrai de toute façon les liens vers tes réseaux, etc., pour que les gens qui veulent te contacter puissent le faire. Également suivre tes aventures. Donc tu l'as un petit peu évoqué, c'est quoi tes prochains objectifs cette année?
Alors je repars pour une édition de la Diagonale des Fous. J'avais dit la première fois, j'ai dit je ne la ferai qu'une fois.
Pourquoi?
Refait une deuxième fois.
Ça a été horrible.
Oui. Ben, comme toute première fois, je m'étais pas absolument pas préparée. Mais vraiment là, j'avais même pas fait le profil. Hein. J'avais pas mentalisé. J'ai pas assez de préparation, pas physique mais mentale. La deuxième fois, j'y suis retournée une deuxième fois parce que mon copain a voulu la faire. Donc j'ai dit, si tu l'as fait, je la fais. Mais j'avais dit jamais 203. J'ai fait une troisième et là, je vais faire ma quatrième. Pourquoi? Je ne sais pas.
le cerveau est incroyable. Il arrive à oublier rapidement la douleur, la souffrance. Tu vois, tu dis plus jamais. Et puis en fait, deux mois après, tu as envie d'y repartir. Quoi.
En fait, ça va être juste un moyen pour moi de tester si toutes ces expériences, justement... sur les autres courses vont me servir pour celle-ci. Et c'est un petit défi personnel pour voir si 8 ans après, le corps humain a toujours les mêmes performances.
Ok, écoute, j'ai hâte d'avoir la réponse. C'est vraiment une question intéressante. Je pense que, justement, en tout cas, l'ultra-endurance est probablement la discipline dans laquelle l'âge est le moins déterminant en termes de dépréciation de la performance. Ce que tu perds en vitesse, tu le gagnes en résistance probablement.
Va voir. Et après, du coup, je suis toujours en recherche d'un gros projet pour cette année à l'international. Je suis dans des conditions. Donc, si des gens ont des idées pour moi, qu'ils n'hésitent pas.
Viens faire la Diserte avec moi en novembre.
J'y avais pensé, mais la Diagonale, c'est en octobre. C'est un peu court. Il n'y a pas d'avion direct. Mais sinon, c'est. Donc, je suis prête pour relever des défis. S'il y a des gens qui ont des idées, qui ne veulent pas les faire, mais qui veulent me les soumettre. Ça peut être en trail, mais pas que. Hein. Ça peut être
traverser de la Manche, je l'ai dit.
Voilà, traverser de la Manche. Mais comme a fait Marine Leleu, en fait, je voulais le faire, mais c'est pareil.
L'enduroman.
C'est que je manque d'accompagnement, enfin, de staff, d'organisation, de soutien.
Et vu que tu fais un peu de natation, de vélo et de trail, si tu veux, je vais recevoir bientôt sur le podcast Cyril Blanchard qui a créé son propre événement qui s'appelle Summum. C'est un Ironman qui part de pas très loin de chez moi, donc au bord du lac Léman. Tu as une première étape de vélo. Ensuite, tu dois traverser un lac à la nage et tu termines par l'ascension du Mont Blanc. Et donc c'est un Ironman, mais un Ironman, on va dire, aventure. Ça a l'air assez incroyable comme idée. Alors je pense que y a pas grand monde qui l'ont fait, tu vois, c'est pas vraiment hyper encadré, mais si tu veux regarder, je crois qu'il a fait un site Summum Ironman, quelque chose comme ça, si tu tapes sur Google. Et tu peux le contacter probablement pour avoir quelques conseils. Franchement, le défi a l'air incroyable.
Là j'étais partie, si je trouve rien d'autre entre guillemets, Je voulais profiter d'être à La Réunion pour faire la 03000, qui est aussi une discipline où tu nages, tu montes à Sillaos en vélo et tu finis au Piton des Neiges en courant. J'avais potentiellement dans la liste la traversée de l'Ouest américain en vélo, mais là, pareil, ben, j'ai pas suffisamment de...
La Race Across America?
Ouais.
Ok.
Voilà.
Moi, j'en ai plein. Si tu veux, Race Across America, j'ai reçu sur le podcast Arnaud Manzanini, qui l'a couru et qui l'a importé en France. Et donc maintenant, tu as la Race Across France et il a même lancé une version gravel où tu fais un petit peu toutes les Alpes, etc. Tu traverses la Suisse. Ça a l'air magnifique.
Ouais. Bah écoute, ça c'est noté. Hop. Et après, il y avait un autre truc qui me passait pas, mais que je trouvais pas mal, c'était la Great Race, quoi. C'est un jour un marathon en continent. Voilà, okay. C'était pas mal.
Ça, en termes de logistique, c'est pas mal. Mais sinon,
c'est l'organisateur, ils affrètent un avion, en fait.
Pour terminer. Ah oui. Ouais, du coup, ça doit un sacré budget. Mais intéressant. Oui, ça s'appelle comment, tu dis?
Great Race.
Ok, je regarderai. Et ça me fait penser, allez, j'en cite un dernier, un épisode que j'ai enregistré avec Serge Rotelli, qui a été mon guide de haute montagne, quelqu'un que j'apprécie énormément, et qui, dans sa jeunesse, a fait le tour du monde en course à pied. Donc, lui, il a fait un marathon par jour, mais pas seulement 5 jours sur 5 continents, mais tous les jours de sa vie pendant plus de 5 ans, et il a fait 45 000 kilomètres et il a vraiment fait le tour du monde en courant avec un marathon par jour. Donc, c'est une belle.
Si je pouvais, je ferais. Mais bon, là, c'est pas possible. Si je pars 5 ans, quand même. C'est pour SD. La course est Great, Great, comme G-R-E-A-T, World, comme World et Race.
Ok, ben je regarderai. Un grand merci Véronique pour ton temps, pour ce partage, pour tous ces conseils, ces anecdotes parfois traumatisantes et souvent réjouissantes.
Non, jamais traumatisantes.
je te souhaite beaucoup de force, de courage pour la suite de tes aventures que je suivrai avec beaucoup d'attention. Et puis à bientôt peut-être.
Ben oui, je vais suivre aussi tes aventures. N'hésite pas.
Merci Véronique. Bye.
Merci, à bientôt.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.